5, 4, 3, 2, unité, top.
Chaque semaine dans l'auberge espagnole, on reçoit...
Tout y passe et tous y passent.
Et c'est les Soil and Peep Sessions qui nous accompagnent avec ce titre Deep Inside qu'on pourrait traduire par tout au fond, profondément tout au fond. Et on va aller tout au fond des choses pour parler de ce congrès. On est en compagnie de Didier Monté qui est chercheur au CIRAD, vice-président du groupe de travail biotechnologie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et donc vous êtes une des chevilles ouvrières de cette 9e édition du congrès Biotrace qui est porté par une association créée en novembre 2005 et dirigée par les étudiants du Master 2 Bio Ingal du parcours DETEC Bio Diagnostic et Traçabilité des Environnements Chimiques et Biologiques de l'Université Montpellier 2. 37 membres actifs à l'heure actuelle répartis entre le Master première année et deuxième année de cette association dont l'objectif est de faire vivre la recherche et de sensibiliser les gens, d'informer aussi notamment au travers de ce congrès dont c'est la 9e édition. Donc c'est déjà une association qui tourne bien.
Oui, tout à fait. Si on revient à l'historique, là, c'est l'idée revient aux professeurs du master, qui sont Didier Touche et le professeur G. Allemand, qui sont maintenant des amis, puisque ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Pourquoi le CIRAD ? Parce que tout simplement, la première année, on a organisé ce congrès au CIRAD. Et donc, ce projet m'a plu. Ce projet qui met en jeu quand même le travail d'étudiants. Ces étudiants sont notés pour faire ce qu'ils font. Et on a été surpris par la qualité du travail de ces étudiants au départ. Et on peut conclure maintenant que la qualité était bonne, puisqu'on est à la 9e édition. Mmh. Cette édition, on l'a fait tourner dans les différentes amphis de l'université et du CIRAD depuis le début.
Mmh. Donc à travers la réalisation de ce congrès scientifique annuel, l'association a satisfait ses ambitions principales qui sont de rassembler des chercheurs et des ingénieurs scientifiques pour faire un état de l'art, on va dire, des avancées technologiques, tout en sensibilisant un large public sur des sujets d'actualité. Donc c'est un congrès qui est accessible aussi à tout un chacun.
Oui, alors...
Même si les thématiques sont quand même relativement pointues.
Oui, c'est toujours assez pointu. Et en tant que président du comité d'organisation, je suis toujours surpris par la qualité des intervenants. Ces intervenants sont invités par les étudiants et pas du tout par les professeurs. On les aide un petit peu pour les orienter, mais c'est eux qui font tout. Par contre, les conférences seront des conférences assez pointues sur différents domaines qui vont tourner autour des nanotechnologies et des capteurs qui sont des capteurs ADN ou des capteurs aptamères, donc en utilisant des mots un petit peu compliqués que je vais essayer peut-être de vous expliquer après.
Voilà, justement, j'allais y venir. Parce que l'idée aussi, l'axe, c'est toujours d'aborder tout ça sur des sujets d'actualité. Alors, on peut dire qu'entre les nanobiotechnologies dans l'exploration du vivant, la détection de la présence de perturbateurs endocriniens, dont on parle beaucoup en ce moment, les besoins de la médecine, dont l'imagerie moléculaire de pathologie ou la recherche sur le cancer, mais aussi les besoins de l'agroalimentaire, dont on parle beaucoup aussi, et pas forcément toujours en bien. On est vraiment tout à fait dans l'actualité. Puis il y a aussi des sujets plus mystérieux comme les lignées cellulaires luminescentes et les récepteurs nucléaires recombinants ou encore justement ces fameux aptacapteurs dont on ne sait pas forcément ce que c'est.
Effectivement, oui. Tout ça est bien compliqué. Il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que le monde scientifique a besoin de capteurs rapides. Alors je vais vous donner l'exemple de l'agroalimentaire puisque j'y travaille tous les jours depuis 35 ans. En agroalimentaire, si on voulait analyser toutes les choses qui intéressent maintenant le public, c'est-à-dire les bactéries pathogènes, par exemple, les toxines, on est incapable de le faire à la vitesse où vont les flux alimentaires sur la planète. Si vous prenez par exemple des mandarines qui viennent du Maroc et qui sont vendues en Suède, ça se fait à une vitesse qui est très importante, puisque le temps de passage de mandarines, par exemple, sur la plateforme de Perpignan est de 1 heure environ. Mmh. Et à 1 heure, il n'y a aucun scientifique qui est capable d'analyser quoi que ce soit. Donc on est obligé de passer par la création d'outils qui sont extrêmement rapides. Alors, pour l'instant, on n'y arrive pas. On se rapproche d'une vitesse qui va être de quelques heures d'analyse pour des pathogènes, par exemple. Alors, pourquoi on parle de nanotechnologie ? Parce qu'on travaille sur des quantités qui sont infimes. Une bactérie, c'est tout petit. Ça a la taille de quelques micromètres. Mmh. Ce qu'on appelle les nanoparticules, c'est quelque chose qui tourne autour de cette grandeur. On va jusqu'à 100 micromètres, à peu près. Alors le micromètre, c'est une mesure qui est le millionième du mètre, le millième du millimètre. Donc c'est des mesures qui sont extrêmement petites. Alors, on va distinguer deux choses là, dans le domaine de ces mesures-là. Il y a le domaine de la chimie, où on va mesurer par exemple des toxines, c'est des molécules chimiques, où on va mesurer dans le domaine de la biologie, c'est-à-dire des êtres vivants comme des bactéries, comme des moisissures toxinogènes. Voilà, alors, tout ce qui est bactéries, moisissures, on parle du monde de l'ADN. Mmh. L'ADN, c'est là où c'est la mémoire de ces organismes-là. Et dans cette mémoire, il y a en particulier des choses qui codent pour la production de toxines. Donc si on arrive à identifier sur une bactérie, par exemple, quel est le gène qui code la toxine, on peut très bien isoler cette partie de l'ADN et le mettre sur un capteur électronique. Et lorsque ce capteur, cette petite partie d'ADN reconnaîtra son homologue, il y aura un signal qui va aller vers l'appareil électronique. Et donc un signal qui peut être un signal lumineux, qui peut être un signal électrique, tout ça, on sait le faire. Mmh. Et là, on parle vraiment de nanotechnologie. Et là, le signal, lui, se fait en vitesse réelle. Par contre, là, il faut quand même isoler l'ADN de la bactérie. Il faut extraire ces ADN qui sont des toutes petites particules et après pouvoir les mesurer. La mesure pose pas de problème, en fait.
Mmh. Alors là, on est vraiment au croisement de trois disciplines, hein, la physique, les maths et la chimie, puisqu'on se rend compte que les dernières avancées en recherche sur la physique quantique rejoignent aussi certaines propriétés dans le monde du vivant, sur des interactions faibles entre les atomes qui constituent les molécules, etc. Donc, en ce moment, c'est assez excitant de lire la presse scientifique, parce qu'on se rend compte que finalement, toutes ces disciplines se croisent peut-être que d'une façon dont elles ne s'étaient jamais croisées auparavant.
Ah oui, c'est complètement nouveau pour les scientifiques. Là, on ne peut plus travailler seul. Donc si vous voulez construire par exemple une puce qui va détecter des bactéries, vous êtes obligé de travailler avec des spécialistes de l'ADN, des spécialistes de la microbiologie, des spécialistes de la chimie et puis des spécialistes aussi de l'électronique. De l'électronique et aussi souvent de l'optique. Mmh. Donc ça fait des sujets super intéressants, évidemment, les chercheurs se régalent là-dedans, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre par contre.
Mmh. Alors ce congrès va se dérouler, j'imagine, à l'université ?
Oui, ça va se faire à l'université Montpellier 2, dans l'amphi de Polytech. Nous espérons avoir autour d'une centaine de participants, comme tous les ans.
Voilà, ça démarre ce jeudi 6 février avec les traditionnels discours de bienvenue du président de l'association, de madame le maire de Montpellier, des différents responsables de l'université. Et puis, on parlera nanomatériaux pour le design de biocapteurs. Ce sera avec Nicole Jaffrezic de l'INSERM. Des nanotechnologies constituent-elles une révolution dans l'exploration du vivant ? Donc, une question sur les enjeux de tout ça avec monsieur Didier Touche de l'UM2. On parlera aussi des besoins et des demandes en agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire, d'une part pour, on va dire, sécuriser le comportement des aliments, mais j'imagine que ça intéresse aussi les entreprises de l'agroalimentaire qui pourraient y voir des moyens de toujours optimiser la productivité et le rendement sonnant et trébuchant de leurs produits. On parlera aussi de ces fameux aptacapteurs en fin de matinée. Qu'est-ce qu'un aptacapteur?
Alors, un aptacapteur, c'est une fraction d'ADN, c'est un tout petit bout d'ADN qui va être composé de 7 bases, à peu près 7-8 bases, et qui en 3 dimensions va avoir la conformation qui permet de capter une toxine, par exemple. Mm-hmm. Donc si vous captez cette toxine là-dessus, et de façon spécifique, évidemment, au milieu d'un magma alimentaire, d'un magma de molécules, ça va capter spécifiquement. Et puis si on relie cet aptacapteur à un système électronique, on pourrait, puisqu'on en est au stade du test, capter des mycotoxines dans des aliments. Mm-hmm.
L'après-midi, ce sera le temps de faire un tour des applications existantes autour de ces biocapteurs, qu'il s'agisse de la conférence que donnera Catherine Alix Panabière sur une biopsie liquide du cancer à partir de cellules tumorales qui circulent. Je traduis le titre de la conférence qui est en anglais. On parlera aussi de biocapteurs marins pour la détection de biotoxines algales, en l'occurrence l'acide domoïque. Par rapport à la mer aussi, on parle beaucoup de nanomatériaux en ce qui concerne la désalinisation de l'eau de mer. Et puis, il y aura aussi cette conférence à 15h45, toujours le 6, sur les lignées cellulaires luminescentes et les récepteurs nucléaires recombinants. Détection de la présence de perturbateurs endocriniens dans les matrices biologiques. Là, on en parle beaucoup de ces perturbateurs endocriniens suite à l'utilisation massive des produits phytosanitaires et des maladies dont souffrent les agriculteurs quelques dizaines d'années plus tard. Et puis, des défis inhérents à la miniaturisation de biosenseurs micro-électromécaniques résonnants. Alors là aussi, le titre est en anglais. On comprend bien que c'est très pointu. Et puis le vendredi 7, ça va se poursuivre autour des techniques innovantes le matin et puis des diagnostics de demain l'après-midi. Donc, en 48 heures, il va y avoir beaucoup de communication. J'imagine qu'à chaque édition du congrès, il y a peut-être des actes de ce congrès qui sont publiés ou les conférences, peut-être les présentations sont mises en ligne.
Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt la deuxième, on met les conférences en ligne. Parce que publier des actes, c'est assez complexe. Et puis quand les étudiants ont fini leur travail, on ne leur demande pas plus encore. C'est encore beaucoup de travail. Et je voudrais dire quelque chose sur les perturbateurs, là, parce qu'on est on est en train de vivre une époque assez intéressante à ce niveau-là. Jusqu'à présent, on travaillait que sur la toxicité des produits alimentaires, en fait, des additifs, des choses comme ça. Et c'était relativement facile à faire. On prenait des rats, on faisait manger à des rats des quantités croissantes de produits, et puis à un moment donné, ils mouraient par la toxicité du produit. Ça, c'est ce qu'on appelle la toxicologie.
Et puis, c'était pas dérangeant parce que ça respectait le fameux proverbe qui dit que c'est la quantité qui fait le poison.
Voilà. On était dans quelque chose de très simple et très facile à expliquer. Et avec cette idée de perturbateur endocrinien, en fait, on ne parle plus de toxicité, on parle de perturbation de cellules vivantes. Donc là, on travaille plus sur des êtres vivants, mais sur des cellules qui sont vivantes. Et on perturbe un métabolisme. Donc perturber, on ne sait pas ce que ça veut dire en termes de toxicologie. Est-ce que perturber, c'est bien? Est-ce que perturber, c'est pas bien? Enfin, souvent, c'est pas bien, d'ailleurs.
Oui.
Mais vous mangez du sucre, par exemple, vous allez vous perturber.
Tout à fait.
Et même, quelquefois, gravement. Donc, toute l'Union européenne, maintenant, est en train de réfléchir à comment mesurer ces effets-là de molécules en infime quantité dans le métabolisme, en mélange, souvent, très souvent en mélange, parce que si vous mangez des extraits de pesticides, vous pouvez en manger des dizaines différentes par jour, à des quantités qui sont extrêmement faibles, qui ne sont plus du tout au niveau toxicologie, et qui peuvent créer quelque chose sur votre métabolisme. Alors, on est presque sûr que ça crée quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le mesurer. Mmh. Et donc, tous les sujets, maintenant, du futur vont porter là-dessus.
Tout à fait, donc c'est assez préoccupant actuellement. Que dire de plus sur ce congrès dont on rappelle qu'il est ouvert au public, même si, bon, on l'a vu, les thématiques sont assez précises, si ce n'est qu'on peut le retrouver sur www.congrès-biotrace.org, là où on retrouve le programme. C'est sur ce site aussi que les communications qui auront été faites seront mises en ligne ?
Certainement, oui, c'est toujours sur le site. Hein. Là, actuellement, on n'a pas pris la décision de les mettre. Mais quand la décision sera prise, ça sera sur le site, oui.
Quelles perspectives sur toutes ces technologies à 5 ans, 10 ans? Parce qu'on se rend compte que tout ça bouge très vite. Chaque jour, on peut lire des avancées dans la recherche qui sont assez surprenantes, compte tenu justement de ce croisement des disciplines dont on parlait tout à l'heure. Tout ça bouge beaucoup, puis ça touche aussi aux questions, on va dire, d'éthique et de politique. On voit bien la frilosité de certaines agences. Alors vous êtes en plein dans l'ANSES aussi, donc on parle souvent de qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour préparer ce qu'on n'avait pas découvert à l'époque et qu'on a découvert aujourd'hui, et comment préparer demain. C'est un sacré bazar finalement d'arriver à concilier la conscience politique des élus, leur volonté, les autorités, la régulation et puis la recherche.
Oui. Donc là, vous posez deux questions. La première question, c'est au niveau technique, ce qu'on peut faire à l'heure actuelle est assez extraordinaire, hein, puisqu'on voit sortir des puces maintenant qui sont capables, bon, moi j'en ai vu, hein, qui ont la taille d'un téléphone portable et qui sont capables d'analyser 70 bactéries sur une puce extrêmement petite, hein, qui doit faire un centimètre de côté. On sait qu'il y a des gens qui développent ce genre de puces avec 10 000 points par... sur un centimètre, on va dire. Donc, il serait capable d'analyser 10 000 choses sur un centimètre. Le problème reste l'extraction quand même. Hein. Si vous voulez analyser une vache, il faudra quand même la faire rentrer dans le téléphone portable. Donc, c'est là qu'en fait que se posent les problèmes. Ça paraît tout bête, mais c'est des problèmes de chimie et de biochimie assez basiques et souvent qui sont difficiles à traiter. Ce qu'on appelle le microfluidique en termes techniques. Donc, il faut créer des petits tuyaux, des petites, ce qu'on appelle des PCR, qui sont capables de multiplier les brins d'ADN sur des volumes extrêmement petits. Alors, tout ça commence à exister, on le voit sortir. Les applications ne sont pas si évidentes, mais on y arrive. Hein. C'est une histoire de jours, de mois, d'années, je ne sais pas trop, mais on le voit sortir. Après, en termes politiques, on vit une époque aussi assez formidable. On vit l'époque de l'information, ça vous êtes au courant. Et on a, depuis 2005, une obligation de renseigner le public à chaque fois qu'il y a un problème sanitaire. Ça, c'est la loi européenne qui le dit. Donc, à chaque fois qu'on renseigne les gens sur un problème sanitaire, ça fait peur. Et ça fait peur, évidemment, aux politiques, qui sont les représentants du peuple. Et donc,
quand ça fait peur aussi aux industriels et aux lobbies qui ont quelque chose à y perdre.
Alors, l'industriel, c'est toujours le gros perdant là-dedans, parce que le moindre problème sanitaire qui peut lui arriver passe à la télévision et à la radio. Donc ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur l'industriel et sur le personnel de l'industrie en question. Par contre, pour le consommateur, on va vers une sûreté qui est un peu plus sérieuse. Alors, nous, on vit en tant qu'experts, on vit dans cette perturbation sociale. Les gens sont de plus en plus informés. On n'est pas sûr qu'ils soient bien informés, par contre. Et quand on reçoit des dossiers, on est obligé de les étudier. Alors moi, je travaille particulièrement sur les OGM et sur les micro-organismes OGM. Ce n'est pas les plantes OGM. Je connais assez bien quand même le secteur. Et là, on est dans des produits qu'on soupçonnerait peut-être être dangereux. Alors, vous voyez, soupçonnerait peut-être être dangereux. Donc, je ne mets que des choses qui ne sont pas sûres. Actuellement, on est presque sûr qu'il n'y a pas de danger sur les OGM qui sont sur le marché, hein, sinon ils n'auraient pas été autorisés. Par contre, on essaye de créer des méthodes qui permettraient d'identifier le moindre problème sur la santé du consommateur. Et là, on n'est plus dans la toxicité dont je vous parlais tout à l'heure, on est dans la
perturbation.
Dans la perturbation éventuelle. Et ça, on ne sait pas mesurer. Donc il y a des grandes discussions au niveau expertise, au niveau européen, entre les spécialistes, pour savoir s'il faut tester sur des rats, sur des lapins, si c'est 90 jours ou 2 ans. Ça, vous avez vu des gros trucs l'année dernière à la télévision là-dessus.
Serralini, etc.
Voilà, on en faisait partie. Moi, j'étais dans les experts qui ont expertisé le dossier Serralini. Donc c'est particulièrement intéressant, mais à l'heure qu'il est, on n'est pas capable de donner une solution à 100% sur la sécurité de quoi que ce soit. D'ailleurs, je parle d'OGM, mais ça peut être un colorant, ça peut être un additif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, toutes les nouveaux produits, les nouvelles formulations passent en expertise. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors qu'aux États-Unis, ils vont faire plutôt l'inverse. Ils vont mettre sur le marché et regarder après les effets. Bon, ils ne sont quand même pas fous complètement. Ils ont aussi leurs experts. Mais en Europe, on a choisi la liste positive.
Ceci étant dit, il y a des tas de choses qui ont été mises sur le marché sans qu'on ait matériellement, sans que ce soit vraiment possible de les étudier. Je pense à des études épidémiologiques à très long terme qu'il aurait peut-être fallu mener sur les téléphones portables bien avant de les mettre sur le marché, mais on se rend bien compte que les premières études sont sorties 10 ans après que les téléphones soient contre les oreilles des gens. Donc l'effet thermique à l'époque, il était assez fort puisque les téléphones étaient très puissants. On arrive à ce qui rayonne de moins en moins aujourd'hui, mais le marché n'aurait pas supporté qu'on dise on va attendre 10 ans, on va étudier vos téléphones, puis après on va voir si on les met sur le marché. Donc c'est un petit peu la même chose dans l'agroalimentaire, on a l'impression quand même qu'on met des choses sur le marché, et puis après il appartiendra aux instances publiques de faire les études qui conviennent, hein, puisque c'est devenu monnaie courante, que ce soit les labos eux-mêmes qui paient les soi-disant études d'innocuité de leurs produits, ce qui, même si tout le monde sait qu'il y a un conflit d'intérêts, ça gêne personne aujourd'hui, quoi.
Ouais, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Avant, il n'y avait pas de législation. Si on mettait sur le marché ce qu'on voulait. Par exemple, si vous prenez le caramel, si on faisait passer au caramel les tests que l'on fait passer à vos OGM maintenant, on n'aurait pas de caramel sur le marché. Ce serait pareil pour la voiture aussi, qui est un outil de mort, hein, même si ça réduit beaucoup. Alors que dans l'alimentaire, on ne tue quasiment plus personne, hein, par toxicité aiguë. Donc là, les travaux se font sur la toxicité pas aiguë, c'est-à-dire sur des produits qui pourraient provoquer le cancer, des maladies métaboliques, des choses beaucoup plus complexes, qui
sur sont une plus longue
pas
durée.
Faciles à expliquer, et sur la durée, voilà. Y compris sur la descendance, maintenant, on travaille sur des choses comme ça. Donc ça c'est pas simple du tout à résoudre. Donc au niveau réglementaire, maintenant, on a les outils qui permettent de le faire. Donc on a des règlements, on a des normes qui sont assez sérieuses, qui sont discutées quand même au niveau international, parce que les normes sont créées par le Codex Alimentarius, qui est une émanation multinationale. Il y a quasiment tous les pays du monde qui en font partie. Donc l'expertise est meilleure. On connaît la toxicité de quasiment toutes les molécules maintenant, enfin toutes les molécules alimentaires dans mon cas. Moi, je ne les connais pas toutes, mais enfin, on a les documents qui permettent de le savoir. Et donc, on a des avancées qui sont notables. On a ces avancées sur l'information qui sont nouvelles, on a donc des avancées sur la connaissance. Donc, tout ça fait qu'on a une meilleure sécurité. Après, les inconnus, il y en a encore beaucoup. Hein, quand vous mélangez 10 additifs dans un produit alimentaire, quand vous les passez au four, qu'est-ce que ça donne?
Bon, c'est plus les mêmes à l'arrivée.
C'est très différent à l'arrivée.
Tout à fait. Le temps qui nous est imparti largement dépassé. Didier Monté, on rappelle que vous êtes président du comité scientifique de cette 9e édition du congrès Biotrace qui, je le rappelle, se déroulera à l'amphi Polytech de la Fac de Sciences les 6 et 7 février 2014 à Montpellier. www.congrès-biotrace.org pour plus de renseignements. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, c'est tous les mardis de 12h à 13h.
Quelque chose de pas trop dégueu.